C'est horrible de devoir être comme ça seul, dans l'indifférence seule, et voilà.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas le froid et la faim qui sont les plus difficiles à supporter pour les gens qui vivent dans la rue, mais bien le manque de contact humain. Manque de contact humain avec les passants d'une part, et entre sans-abri d'autre part, car il n'existe pas de vraie relation d'amitié entre les gens de la rue. Jean, sans domicile fixe.
Il y a des amitiés qui se forment, mais toujours, c'est une amitié bonjour, au revoir. Quoi. Pour quelle raison ? C'est-à-dire que même votre meilleur copain pourrait vous voler.
Pour tenter d'apporter un peu de chaleur humaine aux sans-abri, l'opération Thermos a lieu tous les soirs à la gare centrale. Il s'agit de plusieurs équipes bénévoles qui se relayent pour offrir des repas. Elles offrent également un peu de leur temps pour parler avec ceux qui le souhaitent. Certaines personnes, comme Nicole, n'y viennent donc pas forcément pour la nourriture.
Et quand je suis venue ici, on m'a donné à manger, mais je ne suis pas venue ici pour manger, moi.
Vous êtes venue chercher de la chaleur humaine.
D'humanité, oui.
Cette opération récolte un grand succès. Énormément de SDF s'y rendent, mais pas tous. Brigitte Mao, coordinatrice d'une équipe.
Déjà, s'ils arrivent à venir et tout, c'est qu'il y a encore des choses. Il y a encore une forme de gestion des choses, alors que pour certains, ils ont même quitté ces réalités-là.
En effet, certains sans-abri ne viennent pas à l'opération Thermos et ne vont pas non plus dans les centres d'hébergement. Les raisons en sont nombreuses.
Vous serez au chaud pour dormir, mais étant donné que ce sont des dortoirs, il y a le fait de ne pas dormir sur les deux yeux. Pour quelle raison ? C'est-à-dire que votre voisin risque de vous voler même vos chaussures.
Il y a aussi des raisons d'hygiène.
On risque d'attraper les poux de corps. Pourquoi ? Parce qu'on ne se lave pas, parce qu'on ne se change pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'en font plus qu'à de leurs soins personnels. Quoi. Alors, si c'est pour fréquenter ces gens dans les asiles de nuit, je préfère dormir à la rue dans ces cas-là.
Un autre problème est celui des animaux de compagnie. Aucun centre ne les accepte. Aussi, beaucoup de SDF préfèrent dormir dans la rue que de s'en séparer.
Parce qu'un chien est un ami en premier point, mais est une sécurité également. Parce que quand il dort, le chien va aboyer ou va défendre son maître. Et c'est pour ce faire que les gens préfèrent faire la mendicité une heure, voire deux heures de plus. Parce que c'est toujours une loterie, pour donner à manger à son chien.
Il existe néanmoins un endroit où le règlement est moins strict. Il s'agit du foyer chez nous. Jérôme, ancien SDF, bénévole au chez nous.
Généralement, c'est les gens qui ne peuvent plus rentrer autre part qui atterrissent ici. Quoi. Ici, c'est vraiment le dernier échelon de la rue. Quoi.
Dernier échelon par rapport aux autres centres dans lesquels les règles sont bien plus dures.
Sous influence d'alcool, tu ne peux pas rentrer. Sous influence de drogue, tu ne peux pas rentrer. Nous, on ne tolère pas qu'ils consomment ici ou qu'ils boivent ici, mais bon, on tolère quand même qu'ils viennent boire un café, même sous influence, qu'ils sont défoncés, quoi. Ils doivent être quelque part. Quoi. Donc, fermer bêtement la porte, ça ne résout rien du tout. Quoi.
Il y a une dernière raison pour laquelle certains sans-abri ne vont pas dans les centres d'hébergement. Ils vivent depuis tellement longtemps dans la rue qu'ils sont incapables de se réadapter à une quelconque structure. Alice Pollard, éducatrice au centre d'accueil La Source.
C'est vrai qu'arriver à un moment où vous pensez que la rue, c'est la liberté de vivre comme on a envie, à des heures qu'on a envie, et pour eux, retourner dans le système, c'est très 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 difficile. Et je crois pas c'est qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent plus.
Il faut dire que dans certains centres, dits occupationnels, les conditions de vie sont assez contraignantes. Les résidents doivent travailler pour le centre. Vincent Cook, directeur du foyer Georges Motte de l'Armée du Salut.
Ça fait partie du projet pédagogique de la maison. Donc c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas 7 jours sur 7, ils ne travaillent que 4 jours. Donc 27 heures et quelques, 30 je pense, en occupation. Et après ils ont congé. Alors ces jours de congé qu'ils choisissent eux-mêmes, ça leur permet de faire des démarches administratives, soit de chercher des formations ou du travail extérieur.
Mais le centre prend aussi aux résidents 2/3 de leurs revenus pour l'hébergement, la nourriture et les frais médicaux. Dans le tiers qu'il leur reste, ils reçoivent une 20aine d'euros d'argent de poche par semaine. Et le reste est mis de côté en épargne. À ce rythme-là, il faut rester minimum 3 ans au foyer avant d'avoir économisé assez pour prendre son autonomie. De plus, les résidents y sont très assistés et parfois certains n'arrivent pas à gérer leurs économies une fois sortis du centre. Enfin, il existe des sanctions, notamment envers l'alcoolisme.
Quelqu'un qui a vétéré dans l'alcool et que tous les jours il vient saoul ici chez nous, on fait un travail de fond avec la personne, on essaie de trouver des centres pour se désintoxiquer. Mais si la personne refuse toute aide extérieure et qui dit non, moi je reste comme ça, moi je veux rien savoir, et qui commet des faits de violence ici, bon, on dit à la personne, voilà, écoute, tu rentres pas dans le projet qu'on s'est fixé avec toi, on te met fin à l'hébergement d'une semaine. Et au bout d'une semaine, ils peuvent revenir chez nous. On va dire, voilà, maintenant on est d'accord de te reprendre, mais tu dois faire un effort au sujet de ton alcool.
Au CASU, le centre d'aide sociale d'urgence, le système est moins contraignant. Il ne s'agit pas d'un centre occupationnel et un travail social n'est entrepris qu'à la demande de la personne concernée. Si celle-ci le souhaite, le CASU l'aide à obtenir, si nécessaire, sa carte d'identité et les revenus auxquels elle a droit. Le CASU oriente également la personne vers le service approprié à son cas, hôpital, maison d'accueil ou logement. Cette dernière solution n'est néanmoins pas accessible à tout le monde. Rudy Vandersnissen, coordinateur du CASU.
Orienter vers un logement, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que plus longtemps vous vivez en rue, plus longtemps c'est difficile de revivre entre quatre murs. Donc pour l'instant, on n'a pas encore trouvé d'orientation avec ces personnes. Donc ces personnes reviennent la plupart du temps ici au CASU.
En effet, en quittant la rue pour s'installer dans un appartement, certains SDF ont l'impression de perdre leur liberté et de s'isoler, puisqu'ils ont généralement eu l'habitude de vivre en groupe. Certains préfèrent donc retourner dans la rue.
Le problème avec les gens de la rue qui retournent dans la rue, et ça j'ai remarqué avec deux, trois quand même d'ici, c'est parce que tu veux pas couper les ponts avec ceux qui sont encore dans la rue, ce qui est tout à fait normal.
Pour les gens qui préfèrent donc rester dans la rue et qui sont trop désocialisés pour faire la démarche d'aller au CASU, il existe un travail de maraude.
Le travail de maraude, c'est un travail sur le long terme où on renoue le lien avec les personnes et on fait une évaluation. C'est-à-dire, on va d'abord y aller une fois, on va avoir une conversation banale, on va voir comment elle réagit aussi. Au départ, il peut effectivement ne pas nous entendre, même pas nous parler. Et peut-être même qu'il va même pas, il va même nous engueuler. La première fois, ça arrive assez souvent. Donc la deuxième fois, on va y retourner. Ça va être un peu moins difficile.
Et ainsi de suite, cela peut prendre 1 à 2 ans avant d'arriver à un résultat concret. Au CPAS, la philosophie est la même qu'au CASU. C'est aux gens à faire la démarche de venir demander de l'aide. Antoine Nicolas, assistant social au CPAS de Saint-Gilles.
Mon objectif, c'est le leur. Disons qu'insérer quelqu'un qui ne le veut pas, ça sert à rien. Et certains ont fait le choix d'être dans la rue. C'est pas la majorité, mais donc avec eux, je sais rien faire. Mon rôle à moi, pour eux, c'est de briser leur rêve, puisque je veux être légal, je veux avoir une maison dans le mois qui suit. Eh ben non, c'est pas possible. Tu pars de sans-abri, c'est pas dans le mois qui arrive que tu vas trouver ta maison. Donc je brise le rêve en plusieurs morceaux, en disant on va faire telle étape qui prendra telle durée. Et une fois qu'on a cette étape, ça permet en tout cas de concrétiser le rêve et de voir qu'ils avancent.
Dans certains cas, les tentatives sont fructueuses, mais pas dans tous.
J'ai déjà reçu des gens qui pleuraient de bonheur parce qu'ils venaient de rien et qu'ils sont partis. Mais c'est franchement pas la majorité, il faut pas rêver.
En attendant, pour ceux qui restent dans la rue, les aides financières ne sont pas toujours suffisantes ou sont inexistantes. C'est pourquoi certains SDF pratiquent la mendicité.
On ne fait pas la mendicité pour gagner de l'argent, on fait la mendicité pour vivre. Il y a des endroits où c'est 1 euro pour une douche, il y a d'autres endroits où c'est 2 euros pour une douche. Hein, mais on le fait avec cœur, mais seulement il n'y a pas que ça, il faut laver son linge. Et une wasserette, hein, ça coûte 5 euros lorsqu'on prend la machine, la poudre à lessiver, et le séchoir, ça vous coûte directement 5 euros. Mais voyez-vous, les gens, quand ils vous donnent une pièce de monnaie, ils croient que ça n'est que pour la boisson. Mais c'est pas vrai, c'est pour vivre.
Faire la manche sert aussi à manger. Parce que dans la majorité des centres d'accueil, une petite contribution financière est nécessaire pour obtenir un repas. Au chez nous, on demande aux gens 1 euro symbolique, car on estime que chacun est capable de le trouver et de le garder pour se nourrir. Les SDF approuvent généralement ce système.
Tout n'est pas un dû. Je veux dire, c'est ici aussi, je veux dire, le repas à 1 euro, c'est pas un dû, on n'est pas obligé de le faire. On le fait parce qu'on estime que 1 euro... Tout le monde sait le trouver.
De payer un minimum, c'est normal. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde pourra aller manger gratuit et en profiter et ne rien foutre de sa journée, quoi. Donc j'estime quand même qu'un minimum de payer, c'est valable, c'est valorisant pour la personne parce qu'ils doivent gagner 7 euros ou 7,50 euros pour aller manger. Et s'ils n'ont pas gagné 7,50 euros, ah ben, c'est qu'ils sont en effet néant et ils n'ont qu'à rester dans leur merde.
Il existe cependant un endroit où les repas sont gratuits. Il s'agit du foyer des sœurs de Mère Teresa. Un groupe de religieuses y offre chaque jour un repas chaud à ceux qui le souhaitent. Avant de manger, un recueil de prières est distribué aux personnes présentes qui sont tenues de les réciter en chœur, à voix haute, et ce, pendant plus de 10 minutes. Néanmoins, chacun est le bienvenu, quelle que soit sa confession, catholique et musulman s'y côtoient. Mais pour ces derniers, l'inconvénient est que la nourriture n'est pas toujours adaptée à leurs principes. En ce qui concerne les non-croyants, ils sont aussi bien accueillis. Pour Christophe, bénévole, se rendre au foyer peut même leur être bénéfique.
Ben, ceux qui viennent ici, qui ne sont pas croyants, Bon, c'est une chance pour eux d'être évangélisés. Ils ne sont pas obligés de croire, on n'est pas obligé de croire pour manger. Hein.
Cependant, on peut se demander si réciter ces prières très abstraites et difficilement compréhensibles a vraiment un sens pour les gens qui vivent dans la rue et s'il est juste de les inciter à y participer. Il existe de nombreux types d'aides au sans-domicile fixe. Ceux-ci sont très variés, aussi bien dans l'organisation que dans la philosophie. Certains SDF choisissent d'utiliser ces aides, d'autres pas. Cela dépend de la manière dont ils vivent et conçoivent leur situation. On ne choisit pas de se retrouver à la rue, mais une fois qu'on y est, les réactions divergent.
Est-ce un choix d'être à la rue ? Non, c'est un fait qui nous arrive. Maintenant, est-ce qu'on veut rester à la rue ou est-ce qu'on veut s'en sortir ? Là est la différence. Il y en a certains qui vont rester là-dedans. Pourquoi ? Parce que par le choix. Il y en a d'autres qui vont rester à la rue parce qu'ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Et il y en a d'autres qui vont bouger pour justement s'en sortir. Je serai peut-être dans la deuxième catégorie, mais seulement avec beaucoup de difficultés de retrouver un logement. Si je dois mettre les trois quarts de mon minimex pour me loger, et qu'il ne me reste qu'un quart pour manger, que me reste-t-il comme amusement ? Alors ça serait comme une prison également.
Certains considèrent que de se réinstaller en appartement est une privation de liberté. Cela implique de vivre entre quatre murs et de réserver la majeure partie de ses revenus au loyer. Si ce choix peut sembler difficile à comprendre, c'est parce qu'il est motivé par des valeurs différentes de celles partagées par une majorité de gens. Tout n'est donc qu'une question de perception.